Il était une fois une émission de Kate Bell, Angélique Tasio. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Dominique Servet et Christian Liebens. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Dominique Servet, à la suite des inondations qui ont eu lieu durant l'été 2021, vous êtes allé photographier les victimes des inondations. C'est l'album La vie après, visages et témoignages de personnes en résilience.
Donc nous sommes partis non pas au moment des inondations, mais presque 2 ans après, voir comment ces personnes s'en sortaient, voir comment elles se relevaient, puisque nous entendions dire régulièrement « mais les inondations, c'est terminé, tout est résolu ». Et donc, mon épouse et moi-même sommes partis. Nous avons commencé à remonter la Vesdre depuis Liège, Chennai. Et puis, nous avons rencontré différents témoins. Et le premier et non des moindres étant Christian Liebens.
Christian Liebens, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes justement le premier témoin qu'évoque Dominique Servet. Vous étiez évidemment présent sur les lieux au moment de l'inondation. Et que s'est-il passé ?
Eh bien, je voyais bien que la Vesdre était en crue, bien sûr, mais dans ma maison familiale, les crues de la Vesdre, j'en ai connu tous les 3-4 ans. C'est un phénomène naturel. Hein. Je crois que chaque Belge sait qu'il pleut en Belgique. La particularité de la vallée de la Vesdre, c'est évidemment... Enfin, la rivière alimente 2 barrages. La Gileppe, par un affluent, et puis le barrage de Penne. Depuis 2-3 jours, tous les autres barrages de l'Ardenne lâchaient, diminuaient les niveaux derrière le mur. Et Penne n'a pas été géré du tout. Il est resté à son niveau maximum, malgré les pluies qui étaient de plus en plus torrentielles. Et donc, si la vallée de la Vesdre a connu 35 victimes, 35 morts, et des milliers de personnes ruinées qui ont tout perdu. Je ne suis qu'une modeste victime parmi ces milliers de victimes. Eh bien, voilà, on n'a pas dit la vérité à ces gens. La vérité, c'est que c'est l'incurie de la gestion du barrage de Penne, donc des services publics, donc de l'autorité publique, également donc, au niveau régional, au niveau provincial, qui est chargé en principe de la sécurité du citoyen, nous avait été totalement abandonné par un État qui n'a pas tenu son rôle de protection de la population. Et j'ai dit cette colère à mon interlocuteur, Dominique Servet, qui faisait donc ce travail de récolte d'images, mais aussi d'Annie de Noël, qui, elle, recueillait les témoignages.
Oui, parce qu'il s'agit d'un travail collectif hein, que vous avez réalisé, Dominique Servet, avec votre épouse Annie de Noël. L'idée était donc d'avoir à la fois des images et des commentaires sur les paroles en fait, que les gens vous donnaient.
En fait, la commande, entre guillemets, est partie de Heike Zonen, la pasteur protestante de Verviers, qui nous a dit « Tiens, moi j'ai vu une expo et un recueil que vous avez fait sur les communautés d'origine étrangère du diocèse de Liège. Est-ce que tu me ferais la même chose ?» Et son idée, c'était, en fait, on connaît un épisode problématique au niveau du climat les gens se relèvent et on voudrait bien montrer ça. Et donc, nous sommes partis, forts de cette idée que c'était un problème climatique et que c'était des personnes qui se relevaient. Et puis, plus nous avancions, et plus le problème climatique était relégué au second plan. Je ne dis pas qu'il n'était pas pris en considération, mais il était relégué au second plan. Et plus nous rencontrions des personnes, mais qui n'avaient pas fait leur deuil, entre guillemets, et qui n'étaient pas du tout dans la résilience. Et ça, Christian l'expliquera beaucoup mieux que moi, ce travail de résilience, parce que justement, ce n'était pas possible pour elle à ce moment-là de le faire.
Et pourtant, Dominique Servet, votre album, vous l'avez intitulé, enfin le sous-titre est « Visages et témoignages de personnes en résilience ». Donc, explicitement, ce mot « résilience » figure en couverture.
Pourquoi est-ce qu'il y figure ? Parce que nous pensons que c'est un chemin et que ce chemin doit passer par la vérité, par toutes les vérités, à quelque niveau que ce soit. et que seulement à ce moment-là, les personnes pourront effectivement, je ne vais pas dire tourner la page, mais rebondir, reconstruire quelque chose sur ce qu'elles ont vécu. Ça, c'est une espérance, mais la réalité, on n'y est pas encore.
Christian Libens, au-delà des souvenirs habituels qui se trouvent dans les maisons, hein, comme les photos, un meuble, des objets qui viennent d'une autre génération, dans votre maison, il y avait une collection de livres et une collection bibliophile.
Voilà. Effectivement, je dirige deux collections de littérature. Je suis effectivement bibliophile et par ailleurs, je suis un lecteur passionné. Et dans mon travail éditorial comme d'écrivain, j'ai rencontré beaucoup de confrères consorts. Donc, j'avais dans cette bibliothèque de nombreux milliers d'ouvrages, mais aussi des collections bibliophiliques importantes et surtout des collections de manuscrits d'auteurs, parfois des auteurs peu connus, mais aussi j'avais des textes manuscrits de Yourcenar ou de Simenon, que je destinais d'ailleurs aux archives et musées de la littérature à la Bibliothèque royale. Donc, tout ça est parti sous mes yeux. J'étais réfugié aux étages et je voyais passer les flots qui traversaient ma maison en portant tout. Voilà. Donc, quand Dominique Servet m'a parlé de son travail, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai très vite senti qu'il y avait une vraie empathie chez lui. D'autres ont fait ce même genre d'approche, mais avec un côté voyeur, sinon vautour. Lui et Annie de Noël ont fait ça avec énormément de respect, de compassion, je dirais. Et je lui ai expliqué que la résilience ne pourrait venir que lorsque la vérité aura été proclamée aux oreilles des victimes. Or, c'est tout le contraire. Nous vivons depuis 2 ans et demi devant un mensonge d'État où on a noyé le poisson, c'est le cas de le dire. Hein, un très mauvais jeu de mots, mais je préfère parfois le rire cynique à la colère pure. Néanmoins, cette colère pure persiste et me tient debout parce qu'il y a un avant et un après et on ne peut entrer dans un temps de deuil que lorsque la vérité est dite. Or, cette vérité est toujours tue 2 ans et demi après. Tous les responsables politiques sont toujours en place. Il n'y a eu aucun mouvement connu au sein de la haute administration. Donc, ça veut dire que les responsables de 35 morts sont toujours là, tous les matins devant leur miroir, sans doute sans se poser de questions.
Christian Libens, avez-vous eu peur pour votre vie?
Mais c'est très curieux, ça. C'est vraiment quelque chose, c'est peut-être la chose qui m'a appris le plus, hormis effectivement une belle entraide dont l'ouvrage de Dominique parle beaucoup, une entraide entre citoyens, parce que l'aide des pouvoirs publics, qui sont là en principe pour aider le citoyen, ont tous été absents, mais effectivement, il y a eu une entraide, y compris au sein des victimes, mais aussi dans le pays. Moi, j'ai eu des Flamands qui sont venus m'aider, des Bruxellois, à évacuer des choses après, mais ce qui restait, quoi, les débris. Mais
et la peur de la mort.
Oui, voilà, j'y reviens, pardon, je fais de l'autocensure, là, peut-être. Je n'ose parler de ma trouille. Évidemment, cette trouille fondamentale, elle existe, bien sûr. Je crois que chez tout le monde, personne n'est inconscient. J'ai bien vu que il était possible que le lendemain, je ne sois plus là ou que je sois emporté dans les flots. Je me souviens être monté dans mon grenier et regarder comment je pourrais monter sur le toit, par la fenêtre de toit. Mais quand ma maison vibrait sous la puissance des flots, quand j'ai vu la maison d'en face disparaître, je me suis dit, bon, je ne serai peut-être pas là, mais je fais tout mon possible pour vivre. Et ce n'était pas pour ma propre vie, c'était cette colère déjà pour témoigner et encore témoigner de l'incurie de l'État, des services publics. C'était une république bananière, n'aurait pas été plus dans le manque, plus dans le cynisme de l'incurie.
Dominique Servet, vous l'avez montré dans votre album, hein, « La vie d'après ». Il y a eu énormément de solidarité entre les citoyens. que ce soit de la principauté de Liège ou bien au-delà, hein, puisqu'on a souligné la venue de nombreux Flamands. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché dans votre travail ?
Oui, parce que beaucoup de personnes nous ont dit, sans ces aides, on n'y serait jamais arrivé. Je pense à une petite dame, là. Je dis une petite dame parce que de taille, elle est petite, mais elle a un caractère extraordinaire. Maria, qui portait le quartier à bout de bras, qui est une dame qui a fédéré autour d'elle un tas de personnes. Alors, on parle évidemment des Flamands et des Bruxellois, mais il y a aussi des gens d'autres provinces et des étrangers aussi qui sont venus nous aider.
Bien sûr.
Et donc tout ça nous a touchés. Et je dirais que ça, c'est un peu de baume au cœur pour les personnes de se dire, tiens, allez, d'autres citoyens ne nous laissent pas tomber. Mais on a aussi été confrontés à une rue, la seule rue de Dizon qui ait été touchée, où dans cette rue, il y a eu plusieurs morts. Et à l'heure actuelle, on nous a dit, mais on n'a toujours rien fait.
Oui.
Voilà. Donc, vous voyez, d'un côté, bah oui, effectivement, tout ça, ça nous touche. Et d'un autre côté, bah, on se dit, mais rien qui bouge, quoi.
Est-ce que c'est vivre un tel événement, un tel cataclysme, est-ce que c'est une remise en question d'un système personnel de croyances et de valeurs ?
Alors, très bonne question, parce qu'effectivement, je peux dire que vraiment, je me suis dit, tiens, je peux croire en la solidarité, en l'homme, voilà. Et donc, même un prêtre que j'ai rencontré, qui a témoigné, parce qu'il a beaucoup souffert, il était dans sa maison, isolé, et il entendait sa voisine en train d'agoniser, et il ne pouvait rien faire. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on était au-delà de toutes les croyances. Verviers, hein, le quartier où j'étais, où j'ai beaucoup enquêté, le quartier des Préjavés, d'un quartier multiculturel et multiconfessionnel, il n'y a pas eu de différence, quoi. La mosquée aidait les voisins qui venaient de terminer la remise en état de leur salle de spectacle avec des normes écologiques comme on en a maintenant, etc. Tout était foutu, mais ils étaient là, ils ont aidé. Donc il y a vraiment eu, vraiment, oui, effectivement, on se dit, tiens, allez, on peut encore croire en l'homme.
Et on voit que ce projet d'album, il réunit vraiment la communauté protestante et la communauté catholique, hein, puisqu'il y a notamment Orval qui a participé, l'abbaye de Wavremont également.
Voilà, donc évidemment, il a fallu trouver des sponsors pour éditer le recueil, puisque nous ne voulions rien vendre. Il a fallu imprimer les photos pour qu'elles soient de meilleure qualité possible, transportables, puisque l'expo, on la met à disposition gratuitement. Et donc, on a eu effectivement pas mal d'aides, des monastères, voilà, d'associations et tout. Donc, voilà, ça a vraiment été très, très chouette de ce côté-là, d'avoir toutes ces aides qui nous sont... Mais j'ai envie de dire qu'avec les trappistes, c'est habituel qu'on a souvent leur aide.
Christian, vous aussi, avez-vous connu une remise en question de votre système de croyances et de valeurs ?
Ah oui. Autant, comme Dominique, je dirais que ça m'a réchauffé le cœur de voir la solidarité sur le terrain, entre voisins déjà. Vraiment, là c'était... Ça rassurait sur l'homme. Autant j'ai perdu toute foi, je suis triste de le dire, mais je ne peux pas dire autre chose que ce que je ressens. J'ai perdu toute foi dans cette petite Belgique démocratique et somme toute aimable que je croyais être, et que à l'époque où j'étais prof, j'enseignais ce système démocratique, en plus adouci par une bienveillance, par une bonhomie. Et je me suis trouvé face... Vous savez, j'ai écrit 200 lettres manuscrites à 200 élus, présidents de parti, etc. J'ai eu deux réponses sur les 200 lettres. J'ai, deux mois plus tard, dénoncé cette non-réaction d'une victime adressée à des élus du peuple. J'ai envoyé donc cette espèce de sondage, en guillemets, que j'avais mené moi-même pour dénoncer cela aux éditorialistes de la presse écrite. que par ailleurs je connais parfois, personnellement, je n'ai eu aucune réponse. Voilà. Et là, pour moi, la démocratie en Wallonie, ça n'existe pas.
Et moi, je voulais vous demander, en termes de foi...
De foi personnelle.
Oui, de foi, de croyance en Dieu, puisque je sais que
vous êtes
catholique.
Oui, bien sûr. Mais ça, ma foi, je pense que l'humain est capable des pires et des meilleures choses. Et pour moi, c'est une belle illustration sur le terrain. Mais une illustration douloureuse, voilà, j'en ai été victime parmi plein d'autres. Je ne revendique aucun privilège. Mais si l'humain est pareil... comme je le voyais, les institutions, j'ai perdu foi dans les institutions de mon pays. Et ça, pour moi, c'est tragique. C'est tragique.
Dominique Servet, à côté de ce travail auprès des personnes qui ont vécu les inondations dans leur chair, vous avez également mené un travail de photographe auprès des migrants. Est-ce que c'est important pour vous de relayer la fragilité humaine ?
J'ai envie de dire que ce n'est que mon travail. J'ai d'abord commencé sur le travail sur les migrants, puis sur toutes les familles, qui nous a valu des tags, puisque des gens étaient mécontents d'avoir des photos de familles homoparentales. Et donc le service qui m'avait commandé cela, je lui avais dit, moi je veux bien faire des photos sur les familles, mais je veux toutes les familles qui représentent toute la société. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est la réalité, voilà. Et puis là, on continue avec les inondations. Et dernièrement, je viens d'illustrer une grande partie de la campagne d'Action Vivre Ensemble sur le mal logement, parce que Paul Rixen, qui est malheureusement décédé, avait vu des portraits de gens de la rue que j'avais réalisés à la gare des Guillemins, qui était un des hauts lieux de distribution de nourriture. Il m'avait dit, mais Dominique, il faut en faire quelque chose. Et donc, j'ai envie de dire que je ne fais que de la photo sociale.
Et justement, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de relayer la fragilité humaine ? Qu'est-ce qui vous touche, vous, en tant qu'homme ?
Alors, qu'est-ce qui me touche ? J'ai envie de dire que... Je vais vous parler de ma foi, alors là. C'est une manière pour moi de dire ma foi en l'homme et en Dieu. Et donc, comme je ne sais l'exprimer que comme cela, bien, je me dis... j'emploie mes images pour montrer que dans chaque être humain, même ce toxicomane qui était avachi là, dans la gare des Guillemins, il y a là-bas, comme disait Guy Gilbert, une étincelle de divin, lui, et qu'on peut le regarder aussi comme un être humain qui a ses souffrances, qui souffre certainement, et que nous pouvons accueillir comme un frère, comme une sœur.
Plusieurs des personnes que vous avez photographiées et qui sont présentes dans cet album « La vie d'après » disent combien le fait d'avoir eu leur vie en jeu a vraiment changé les choses et que la vie après, en fait, elle est moins matérialiste.
Ah oui, ça c'est presque unanime. Ça. Mm-hmm. Hein, toutes les personnes nous en ont parlé, nous ont dit « tu sais, on ne peut plus considérer les choses comme on les considérait précédemment ». Et donc, voilà, nous n'avons fait que retranscrire ce qu'il nous disait. Et on peut peut-être demander à une victime ce qu'elle en pense.
Nous allons le faire de ce pas, Christian.
Oui, bien sûr. Je ne sais pas si je suis représentatif du corpus social, comme disent les sociologues, mais personnellement, mes valeurs sont... je pense, sont des valeurs chrétiennes de transcendantales. Donc, je ne suis pas très attaché aux objets. Mais, par contre, le matérialisme, je trouve que c'est une attitude face à la vie qui est le déni même de ce qu'est la vie. Par contre, certains objets sont porteurs d'une transcendance. Et je pense là à, par exemple, une page écrite par Ursenard, par Simenon ou par le poète Norge, un poème de Norge manuscrit avec sa belle écriture ronde, ce n'est plus un objet. C'est quelque chose c'est du petit sacré pour moi. Et d'avoir perdu ça, c'est ça qui m'affecte. Alors oui, je roule dans une vieille voiture, je me fiche éperdument des objets de marque ou que sais-je, mais je suis très touché par la perte de supports artistiques. Hein. Je pense par exemple à des tableaux. J'avais un tableau d'un ami de Simenon, qui n'est pas excessivement connu, juste des spécialistes. Je l'ai retrouvé au fond d'un tas de boue, comme c'était une huile sur carton, c'était imbibé d'eau, il était fichu. Eh bien, ce beau tableau de Luc Lafney, je l'ai perdu comme une œuvre d'art, comme un témoignage d'un génie humain pour dire l'indicible. Et donc, à ce moment-là, oui, certains objets, je pleure leur perte.
Dominique Servet, une liste avec 10 recommandations des victimes a été remise à la région Wallonne. C'était important.
Alors, donc, l'initiative part de cette petite dame dont je vous parlais, là, Maria, ce petit bout de femme qui est extraordinaire au niveau énergie. Donc, oui, elle tenait vraiment à remettre ses réflexions, ses recommandations, sans illusion.
Et donc, c'est aussi un travail collectif.
C'est aussi un travail, parce qu'en fait, il faut savoir que les Préjavés sont peut-être un quartier précarisé, que ce soit culturellement ou que ce soit socialement, même économiquement parlant, mais c'est un quartier très riche au niveau comité de quartier, etc. Et donc là-bas, il y a vraiment des solidarités qui existent. Et là où quelqu'un ne comprendra pas, il y aura bien un autre pour lui expliquer, etc. Donc c'était vraiment un travail collectif. Et nous avons exposé en Préjavais dans une salle qui a été aux ateliers du Prince, qui ont été victimes. Et c'est eux qui nous ont dit, mais évidemment que vous pouvez exposer ici, parce que nous, on ne voyait pas, moi, je ne voulais pas exposer, après avoir rencontré des personnes, je ne voulais pas exposer dans une salle de la ville. La ville était prête, évidemment, à nous mettre une salle à disposition. Et les ateliers du Prince nous ont dit, mais non, vous venez ici. Et donc, en trois, quatre jours, j'ai envie de dire que Sandrine, avec un pied cassé, avec une botte, là, nous a repeint des locaux pour qu'on puisse exposer notre trentaine de photos. Et elle l'a permis que dans son atelier, il y ait une petite réception après. Donc voilà, il y a une vraie solidarité dans ce quartier.
Et une chaleur humaine.
Ah oui, ça c'est inévitable. Il y a une des photos, là, je me baladais régulièrement avec mon appareil photo, puis je sors à barbecue, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? À ce moment-ci, à barbecue, c'est pas possible. Si, voilà, c'est une famille rome qui habite là-bas, et ils avaient sorti le barbecue, et ils me disent, vous voulez manger à bout avec nous? Mais je passais moi avec mon appareil photo, quoi. Donc c'est la réalité, le nombre de personnes avec qui j'ai discuté, donc c'était très très riche humainement parlant.
Au moment de conclure cette émission, Dominique Servet, Christian Libène, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager avec nos auditeurs?
Moi, en tous les cas, c'est cette foi en l'humain capable de se mettre au service d'autrui. Ce que j'ai vu, en tous les cas, m'a vraiment marqué et m'a touché profondément.
Christian ?
Que dire sinon ? Quand nous dira-t-on la vérité ? Quand les responsables de ce drame feront amende honorable ? Voilà, et les pouvoirs publics surtout. Ils sont là pour ça, ils nous tiennent des beaux discours, on vote bientôt, donc les discours, c'est pas ça qui va manquer. J'aimerais bien qu'on donne la parole officiellement à toutes ces victimes, à toutes ces personnes qui ont des proches qui sont partis au fil de l'eau, dans les flots.
Merci à tous les deux pour votre présence ce soir. La vie après visage et témoignages de personnes en résilience a été publiée sous la direction de Eik Sonnen de Verviers. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.